bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 35e épisode, épisode numéro 34. Nous sommes le 3 mars 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry et Quentin Adam, que vous connaissez déjà et qui ne sont pas cachés cette fois.
Ah oui, tiens, oui. On a complètement oublié se cacher.
Ouais, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet.
Voilà, Geoffroy Coupry, face, Wasm, Quentin, tout, CEO, CTO, moi, je me présente jamais.
Là, je suis présentement en train de compiler l'LVM, pour être tout à fait précis.
La chance, je ne qualifierais pas de... En fait, Quentin installe son exerbo annuel, parce que nous rappelons que c'est l'année du desktop sous Linux.
Annuel parce qu'il va passer l'année, l'annuel.
Cette année, c'est l'année du desktop Linux.
Voilà. Bref, un massif un peu particulier, nous ne sommes que trois, vacances scolaires oblige et calendrier compliqué chez nous oblige.
Ouais, et annulation surtout du massif spécial qu'on était censé faire en dernière minute. Quoi.
Voilà, et annulation du massif kernel que vous retrouverez peut-être dans 15 jours si tout va bien. Anyway, on commence par un lien assez rigolo, une espèce de d'épiphanie dans le web en général. C'est un article de Bloomberg, The World Web Pays for Google and Facebook to be Free. En gros, les gens se rendent compte que Google et Facebook, avec leurs revenus publicitaires, globalement, c'est eux qui touchent toutes les thunes de tout, parce que tous les modèles sont basés sur le gratuit et la pub. Et du coup, petit à petit, on revient à la mode des paywall, Apparemment, les gens ont plus l'habitude et sont plus OK à payer pour de la qualité, pour du contenu, et donc le payant revient, ou en tout cas est en train de remonter. Les gens se rendent compte du coup que c'est pas forcément aussi cool que la situation d'avant. Ils donnent comme exemple, avant j'avais mon abonnement câble, et j'avais accès à toutes les chaînes. Maintenant, il me faut un abonnement à Netflix, il me faut un abonnement à Amazon, il me faut un abonnement à tous les autres. Et du coup, tu as une espèce de réalisation un peu dure que... le contenu gratuit, il y a un moment donné, il faut payer. Et il y a plein de gens qu'on remarque, que ce soit que Facebook et Google qui ramassent. Et du coup, il y a une montée des abonnements payants. Alors, la grosse blague, c'est que hier, j'ai réactivé mon abonnement payant à Qobuz. Qobuz, qui, on le rappelle, est un Spotify français. Du coup, je suis complètement dans la cible de cet article.
Je suis fier de toi.
Enfin, il y a beaucoup de gratuits subventionnés par la pub, mais en fait, il y a beaucoup de contenu qui est vraiment, vraiment pourri, faut le dire. Et le truc que je trouve intéressant récemment, c'est les trucs comme Substack là, qui sont en train de se développer. Le retour des newsletters est payant en plus, enfin, quelle innovation de dingue. Mais en fait, tu as des gens qui sont intéressants et tu as des gens qui sont là et disent je veux bien te filer $3 par mois pour que tu continues à m'envoyer des trucs intéressants. Et c'est bien. C'est plutôt bien, en fait, que les gens prennent ce genre d'habitude, quoi.
Ouais, c'est de la montée des Patreons et des choses comme ça aussi. Moi, j'ai deux interrogations là-dessus. Est-ce que on va repartir comme au début du web où tout était payant par défaut parce qu'on ne savait pas faire autrement et que petit à petit, le piratage est monté avec une UX infiniment plus simple que la plupart des UX, des trucs payants. Et du coup, les gens disaient, vas-y, c'est plus simple de pirater, je vais pirater. Avec Netflix, on est arrivé à, en fait, non, je vais arrêter de pirater parce que Netflix, c'est tellement simple que du coup, je vais faire du Netflix. Sauf que maintenant, tu as un split Netflix, machin, bidule, etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer si tu as un agrégateur qui arrive et qui propose du gratuit facile et agrégé?
Je sais pas, moi je pense que le silotage coûte pas si cher que ça. Beaucoup de gens se partagent des codes. Bon, moi je prends un abonnement familial, tu vois. Chez nous, l'abonnement il est familial sur les Netflix, Apple, Disney et compagnie. Et au final, c'est pas très cher. T'as tout, t'as la musique, t'as tout. En fait, je pense que les gens vont accepter globalement les silos. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que tu fais de la création qui est hors silo, tu vois.
Qu'est-ce que tu fais quand tu perds l'effet réseau?
Ouais, et puis surtout, qu'est-ce que tu fais d'exception culturelle française, tu vois? Que tu n'auras pas sur Netflix, tu vois, et que tu n'auras pas sur Disney Plus et machin.
Je te rappelle que nous avons une plateforme souveraine en cours de création. Je crois qu'elle est en ligne d'ailleurs.
Ouais, elle est hébergée sur Amazon aussi.
En fait, il serait bien que cette plateforme ship à un moment, parce que je suis même pas sûr que Pirate Bay indexe même les films de l'exception culturelle française.
Ah si.
Je crois qu'on les trouvera
d'ailleurs,
pas ailleurs.
D'ailleurs, la meilleure façon de te faire choper par la DOPI, c'est de regarder des films français, parce que c'est ceux qui ont une surveillance en France. Et du coup, genre, va télécharger les Tuches 3, là, t'es sûr de te faire gauler. Là, tu vois.
Alors, nous sommes mauvaise langue. Je sais pas quand est-ce que c'est devenu dispo, mais Salto est dispo depuis un certain temps au tarif de 6,99€ par mois.
Rapproche-toi de ton micro.
Ouais, arrête de t'éloigner de ton micro, rapproche-toi.
Et donc, je disais que Salto est disponible à partir de 6,99€ par mois sans engagement, indéniable à tout moment. Donc, nous avons été mauvaise langue.
Et c'est toujours hébergé chez Jeff Bezos quoi.
Probablement.
Ah, la souveraineté. Mais moi, ce qui m'intéresse sur le fait de payer pour le contenu, c'est est-ce que ça va changer les habitudes de consommation? Parce que, alors, je sais pas, peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'ai sur mon téléphone, sur mon Chrome ou mon laptop, etc., j'ai un million d'onglets ouverts sur différentes pages qu'un jour j'irai lire. Par contre, les deux, trois trucs que je paie, ça, je dis, bah, faut quand même que j'aille les lire, quoi. Ça, t'as une valeur par rapport à, bah, je l'ai payé pour, je faudrait quand même que j'aille le lire, le truc, quoi.
Par exemple, le entreprise, The Linux Kernel Newsletter, la LKVM.
Le fameux syndrome de l'abonnement à la salle de gym.
Ouais, ça dépend. En vrai, il y a beaucoup de gens qui payent leur abonnement à la salle de gym et qui y vont pas. Hein.
Oui, et ils le paient pour dire qu'ils ont un abonnement.
Il y a beaucoup de gens qui achètent du contenu mais qui ne lisent pas. Hein. C'est pareil.
Bref, toujours est-il que le web redevient plus... Moi, je trouve que c'est bien. La multiplicité des modèles économiques est toujours une bonne chose.
C'est plus simple.
Dans un écosystème économique, c'est mieux.
C'est mieux parce que là, tu avais quand même une concentration du pouvoir un peu compliquée. On passe au lien suivant. Google a flagué ses propres apps iOS comme « out of date ». Après deux mois de négligence, c'est-à-dire de Quentin Adam, Google n'a pas updaté ses apps depuis longtemps.
Ce qui se passe, c'est que depuis iOS 14, vous savez, depuis iOS 14, tu es censé expliquer ce que tu vas faire des données des gens avec, dans tes descriptions. Donc, tu es censé filer un cartridge en fait, de ce que tu es en train de faire dans la marketplace Apple. En disant, bah, voilà pourquoi je prends telle donnée, je vais en faire ça, etc. Un peu une sorte de GDPR appliqué, en fait. Et ça, du coup, Google, je pense qu'ils sont pas très, très, très confort dans la façon de résumer ce qu'ils vont faire de nos données sur les applications. Et là, donc, pour l'instant, pas de mise à jour, pas d'obligation de mettre les cartridges de privacy. Parce qu'un peu comme ça que je l'interprète. Et en fait, du coup, c'est assez drôle parce que bah, pour l'instant, Google ne met plus à jour ses applications iOS. Donc, il y a bien un moment où ils vont être obligés de bouger. Mais pour l'instant, en fait, elles sont tellement pas mises à jour qu'elles ont fini par être flaguées par Google lui-même quand il essaye de te connecter comme obsolète. Et donc, c'était drôle. Voilà. Mais du coup, Apple avec iOS 14 et la privacy, j'ai l'impression qu'ils commencent à bien faire chier leurs petits amis de la vallée. Parce qu'il y a eu également une petite news de Zuckerberg qui voulait très clairement, enfin le verbatim, et qu'il veut inflict pain, c'est-à-dire faire du mal à Apple à cause de son privacy change. Ça avait l'air d'être assez... les mots de Zuckerberg avaient l'air d'être relativement pénibles et a priori, c'est, l'animosité est assez... forte vis-à-vis de Tim Cook. Et donc voilà. Donc c'est sûr que quand tu t'appelles Facebook aujourd'hui, la vision des Apple cartridges, ça t'arrange pas beaucoup. Donc voilà. C'est un.
C'est-à-dire qu'on parle d'une perte de revenus sèche là, quand même.
Mais en fait, c'est surtout que Cook a fait des commentaires assez forts dans une des derniers trucs où il a causé. Il a dit que les théorie de conspirationniste avait été émulsionnée, en fait, en quelque sorte, par des algorithmes. Et en fait, la façon d'en parler, c'était clairement Facebook qui était visé, avec, comme on a parlé plusieurs fois déjà, le cercle de discussion dans lequel t'enfermes Facebook. Et du
ça,
coup,
ça tape aussi beaucoup sur, sur YouTube, hein, parce que le glissement de « je regarde une petite vidéo pour les enfants » et puis pouf, t'es dans les tests conspirationnistes au bout de 3 vidéos, c'est
chelou. Tu confirmes, hein. T'as essayé avec tes mômes?
Non, avec mes mômes, je gère la playlist très très précisément. Hein, genre une par une, pas d'autoplay, voilà.
Puis tu sais, t'as toujours la famille hein, qui pose problème. Hein. Tiens, regarde, j'ai trouvé un lien qui t'explique bien que les vaccins, c'est de la merde. Mais c'est sur TV Liberté. Évidemment, c'est les fachos. Voilà. Mais oui. Et après, t'as ça dans ton historique.
On passe le bonjour à tous nos auditeurs qui regardent TV Liberté.
On passe notre bonjour à tous les auditeurs qui regardent TV Liberté. Du coup, allez voir, hein, le directeur de la publication est également vice-président du groupe identitaire, qui a été dissous aujourd'hui en Conseil des ministres. Mais du coup, ouais, c'est les fachos. Quoi.
Voilà. Là, c'est le moment où j'essaierai de faire une transition, mais ça va être pénible, donc je ne vais pas faire une transition de facho en parlant de Google, ce serait mal.
Ouais.
On va parler d'un article de ZDNet, un brin alarmiste que l'on pourrait qualifier légèrement diffamatoire, parce que le titre de l'article, c'est « Google va payer 2 développeurs pour colmater les failles dans le noyau Linux », et le sous-titre, c'est « Les développeurs open source ne sont pas prêts à faire des efforts pour sécuriser leur code, il faut donc employer des spécialistes ». Est-ce
Quelle
que c'est pas
feignasse.
Un peu du gros foutage de gueule? Et on en profite en plus pour bien s'asseoir sur tous les efforts des gens qui font de l'open source sur leur temps libre. Hein,
ouais, j'avoue que cet article, moi, j'ai trouvé assez magique dans son titrage. Pour être honnête, j'ai même envoyé des DM au mec qui l'écrit, qui ne m'a pas répondu, sauf là. L'article est un... Enfin, l'article flaire gentiment, tu sais, l'époque où l'open source était regardé comme un truc bizarre au lieu d'être le truc dominant, tu vois. Genre, les développeurs open source, pourquoi sont-ils? Qui sont leurs réseaux?
Qui sont ces hobbyistes de garage?
Google a mis apparemment à embaucher des mecs pour bosser sur la sécu. Je rappelle que chez Google, ils sont 100 000. Je suis ravi que Google paye 2 développeurs à bosser sur la sécu du kernel. Je rappelle que chaque release du kernel prend les contributs d'à peu près 1500 personnes. Hein. Donc, merci les gars.
En plus, ce que l'article dit pas, c'est l'article, c'est présente que le truc comme hey, ça y est, il va enfin y avoir quelqu'un qui bosse sur la sécu du kernel. En fait, genre, non, il y a déjà plein de gens qui bossent dessus. Là, c'est juste 2 personnes qui ont bossé sur des projets particuliers.
Il y a plusieurs groupes sécu dans le kernel, même, on peut le dire. Il y a les gens qui gèrent crypt dans le kernel, qui est toute la crypto. Il y a des gens qui tiennent une version pas à jour de Linux, mais hardenée. Et après, il y a plusieurs boîtes qui font du hardening Linux, où ils vont découper dans le kernel Linux les trucs qui leur semblent pas fiers pour faire des versions Linux hyper, hyper carrées. Enfin, genre, en fait, des gens qui bossent dans la sécu sur Linux, il y en a 1000. Et après, effectivement, Linus Torvald a des fois dit oh, en vrai, les mecs de la sécu nous les cassent. Mais en fait, genre, il dit juste c'est pas moi qui gère le dossier en premier. Moi, je suis feature oriented. Il y a des gens qui gèrent la sécu, mais en vrai, il y a des gens qui gèrent la sécu.
Attends, il s'est quand même assez souvent largement opposé à des patchs de sécu, des choses comme ça. Il a été activement toxique pour la sécurité, entre autres. Mais bon, on ne peut quand même pas dire qu'il n'y a personne qui bosse sur la sécu. Là, ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a 2 gens qui vont bosser sur des projets spécifiques. Il y en a un, il va bosser sur le support de compilation du kernel par Clang. Et donc, une fois que ça compile avec Clang, tu as LLVM qui apporte un paquet de features hyper intéressantes pour vérifier le code. Et tu en as un autre, en fait,
ouais,
qui se fait genre...
Alors, Clang, pour ceux qui ne savent pas, Clang, c'est le compilo C de LLVM. C'est-à-dire qu'au lieu de compiler le kernel avec GCC, on le compilerait avec LLVM.
Alors, tout ça, c'est dispo dans l'article qu'on a mis après, qui est qui est une press release de la Linux Foundation. Alors, on ne sait pas si ZDNet a basé son article là-dessus. Manifestement, ils ont oublié toute la partie technique pour
Ils ont mis le lien vers l'article, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas lu complètement l'article. Je sais pas, il faudrait demander au journaliste. Nous avons contacté le journaliste, il n'a pas désiré commenter.
Voilà, clickbait, pas cool.
Ouais, si on pouvait arrêter de taper sur Linux ensuite, ça m'arrangerait.
Qui continue à faire tourner un peu tout l'Internet mondial.
C'est ça.
ainsi que la plupart de vos téléphones et de vos appliances. Mais bon, apparemment, les gens qui font ça, c'est des hobbyistes qui font ça dans leur garage et qui se foutent de votre sécurité. Mais ouais. Bisous à Jason Donenfeld. Monsieur WireGuard.
Et pendant ce temps-là, je compile LLVM. Et bah, vous allez voir qu'on n'est pas sorti du sable qu'LLVM. C'est un gros projet quand on le compile.
La vraie question, c'est est-ce que tu auras fini de le compiler à la fin de ce podcast ?
Je serais quand même surpris que je n'ai pas fini, parce que je suis quand même une espèce de gros processeur un peu bourrin. Donc,
Eh bien, nous verrons.
Je pense qu'il y en a pour l'après-midi.
En parlant de gros processeurs un peu bourrins, parlons de techniques de gravure pour écrire des gros processeurs un peu bourrins. C'est un article du Singularity Hub que je ne connaissais pas, qui explique qu'il y a une nouvelle façon de faire des... Alors, c'est pas vraiment des wafers, si on peut considérer que c'est des wafers.
Des
nano-origami en graphène. Donc des petits origami en graphène pour empiler les couches de graphène pour en mettre plus dans moins de place. Donc pour continuer à minifier la taille de vos CPU, enfin de vos chips.
En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que donc le graphène, ça peut être ou non conducteur. Donc sur le papier, c'est très très bien pour faire des semi-conducteurs. Pour autant, les processus industriels de conception sont moins carrés. Hein. Pour l'instant, on est plus dans de la recherche. Mais le candidat en termes de reprise après le silicium, c'est clairement le graphène. Hein. Mais pour l'instant, on n'y est pas complètement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de se dire qu'il y a une réserve de capacité à envoyer du calcul en graphène qui est énorme, qui pourrait permettre de revoir la loi de Moore se réactiver. En fait, ça pourrait être le retour de la loi de Moore si on arrive à stabiliser les processus graphène, parce que du coup, on changerait complètement la façon de faire des CPU. Et du coup, on aurait des nouveaux types de semi-conducteurs et ce serait vraiment génial. Pour l'instant, c'est encore une discussion, c'est pas un truc finalisé, mais c'est assez cool en fait.
C'est plein de promesses.
Ouais, franchement, c'est plein de promesses. Et du coup, vous pouvez vous renseigner sur le graphène, c'est cool. Surtout que le graphène, ça permettrait également de réduire la consommation énergétique des semi-conducteurs. Pour ce que ça consomme, hein, ce qui n'est pas non plus, pas non plus au bout du monde, mais plus on réduit la consommation, plus ça pourrait avoir des impacts très intéressants sur l'autonomie des dispositifs. Donc avoir des laptops qui pourraient tenir plusieurs jours, ou des téléphones, dont on pourrait imaginer des téléphones sans port de recharge, donc uniquement avec des recharges en induction, ou avec des mécanismes de génération d'électricité par le mouvement. Vous pouvez imaginer que le simple fait que vous portiez votre téléphone sur vous pendant que vous marchez produirait suffisamment d'énergie pour faire survivre. On aurait des téléphones qu'on n'a plus besoin de charger et quand on le chargerait, on le collerait sur une table en induction. Et ça, en fait, ça paraît très, très gadget, mais ça change complètement les usages parce que si tu n'as plus de prise pour le brancher, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trou, ça veut dire que tu peux faire des téléphones réellement étanches, par exemple. Enfin, des choses comme ça qui sont assez intéressantes, quoi. Donc, on est loin de la révolution avérée, mais on a des choses.
C'est en cours. On passe au lien suivant. Tu parlais de téléphone sans trou. Parlons de bootloader sans trou de sécu. Ah non, en fait, ça ne marche pas. Il y a des failles de sécu dans Secure Boot. Secure Boot, qui est un truc que vous pouvez activer dans votre BIOS et que normalement quand vous déployez, quand vous installez du Linux sur votre laptop, vous désactivez assez vite. Mais je ne peux pas vous en parler. Je vais donc demander à Quentin Adam de vous expliquer ce qu'est Secure Boot. Alors, et de pourquoi c'est chiant.
Ouais, c'est pas exactement ça. C'est dans l'implémentation de Grub de Secure Boot, il y a des failles de sécu. Secure Boot, c'est une techno qui globalement vous permet de signer le kernel qui se boot d'un système. Donc, c'est-à-dire de pouvoir vérifier que sur un hardware donné dans l'UEFI, donc à partir du moment où on parle vraiment du firmware, on ne soit pas capable de booter quelque chose d'autre. Typiquement, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est d'empêcher un morceau de code qui serait un spyware d'aller réécrire des bouts du kernel Windows, par exemple, pour pouvoir s'auto-booter au démarrage. voyez, un virus qui viendrait modifier la séquence de boot pour pouvoir, par exemple, se placer juste au-dessus du kernel ou un truc comme ça, et du coup, prendre la main. Donc, l'idée de Secure Boot, c'est ça. Après, ce qui se passe, c'est que il y a quand même beaucoup de fois où on le désactive Secure Boot quand on est sous Linux parce qu'il te casse les couilles, pour être tout à fait franc avec ce qui se passe. Parce que c'est un peu chiant à implémenter. Et là, manifestement, il y a des gens qui ont réussi à trouver une façon de contourner le Secure Boot dans Grub 2 et de faire passer un binaire qui aurait été signé par un binaire qui, enfin, dans un binaire qui ne l'a pas été. Et donc, du coup, ça compromet une partie de la sécu de machines qui se servaient de Secure Boot pour assurer que ce qui a été booté est bien ce qui avait été booté et que personne n'a pu prendre la place du kernel. Ce qui est un peu dommage. Voilà.
Ce qui serait extrêmement dommageable, je veux dire.
Ouais, après, c'est pas non plus la feature de sécurité la plus utilisée du monde. Hein. Enfin, très concrètement, on utilise tous des disques chiffrés. Enfin, il y a des choses pénibles, mais c'est pas non plus. Enfin, je suis pas non plus ravagé par cette faille-là. Il y a des trucs plus pénibles, pourquoi?
Dans l'idéal, ça aurait été un truc facile à utiliser sous Linux, mais bon, ça devrait être en fait la pierre angulaire de la sécurité de ton ordinateur. En fait, ça peut pas booter si tout n'a pas été vérifié. Sauf que dans la pratique, c'est compliqué.
Et ce qui manque, c'est quoi? C'est la compat avec le BIOS Secure Boot dans Linux, dans le noyau, ou...
Non,
dans la façon dont tu builds, en fait, quand ça impliquerait que quand tu builds ton kernel, tu le signes et que tu as expliqué à ton BIOS que c'est ça la signature du truc que tu viens de builder.
C'est ça, c'est le fait de gérer tes clés à toi, etc. Au lieu d'avoir des clés qui viennent d'une chaîne qui a été validée par les constructeurs et tout, c'est vachement plus facile si tu es un gros constructeur, un gros fournisseur d'OS comme Microsoft ou Ubuntu, mais si tu installes ton laptop dans ton coin, c'est plus compliqué. Voilà. Mais ça sera comme ça sur toute la durée de vie de cette feature-là, en fait.
C'est une feature qui a été conçue encore un peu à l'ancienne, sans discussion avec la communauté, basée pour, tu vois, et basée sur qu'est-ce qu'en pense, tu vois, uniquement les gros constructeurs, les gros éditeurs entre eux, quoi. Donc c'est un peu triste, quoi.
Tu veux dire qu'ils ont oublié les développeurs open source dans leur garage qui ne font pas attention à la sécurité.
C'est exactement ça.
Ok, on va passer au lien suivant. C'est un lien Postgres, ce qui surprendra tous nos auditeurs. On a eu quelqu'un sur Twitter qui nous a dit « Oh là là, est-ce qu'il y a un épisode où vous ne parlez pas de Postgres ?» Eh bien, pas celui-là. On va parler de connection queuing avec PG Bouncer. PG Bouncer, c'est un outil pour faire du load balancing entre plusieurs PG. Et vous êtes tous familiers avec la notion de connection pool. Et PG Bouncer va un cran plus loin et a introduit la notion de connection queuing. Donc l'article est assez bien foutu. Il vous explique un peu quel problème il a et quel problème il veut gérer avec la notion de queued connection. Réagir quand vous avez un too many client already error ou quand vous avez éclaté votre max connection. Une solution, le connection queuing. Quentin, c'est un truc que tu voulais mettre en place chez nous.
Ouais, alors en fait, ce qui est très intéressant, aujourd'hui, Cleverclan vous fournit déjà ce qu'on appelle PG Pool. Donc PG Pool, ça vous permet notamment pour des applicatifs qui ouvriraient et fermeraient beaucoup de connexions au niveau de l'applicatif, comme par exemple du PHP, de se connecter en local et pas de se connecter au serveur quand vous faites ça. Donc là, vous gagnez du temps, hein, parce que du coup, le PG pool est déjà connecté au serveur et vous ne faites que vous reconnecter à un Unix socket local. Mais ce qui permet également de faire le PG pool chez nous, c'est de diviser les requêtes d'écriture des requêtes de select. Ce qui permet d'avoir un système en leader-follower et d'aller taper les requêtes de lecture sur les followers et de taper les requêtes d'écriture sur le leader. Donc ça, c'est un... Donc ça, c'est top. L'idée de base qu'il y a derrière Bouncer là-dedans, ce qu'ils ont créé, c'est la connection En fait, l'idée, elle est de dire on va continuer à limiter le nombre de connexions qui vont au serveur. Donc, pourquoi est-ce qu'on limite les connexions qui vont dans le serveur? Ça, c'est une très bonne question. C'est, en fait, votre serveur de BDD, au fur et à mesure où il ajoute des connexions, il est obligé de leur réserver des ressources. Donc, que ce soit en temps CPU ou en RAM, il va réserver des ressources. Et donc, si vous faites exploser le nombre de connexions, vous allez faire exploser le serveur. C'est pour ça qu'on a tendance à protéger les serveurs contre un nombre trop important de connexions. En fait,
ça bouffe des ressources. Il n'y a pas un truc aussi où à chaque nouvelle connexion, en fait, ça forque un process qui va gérer en fait, les requêtes pour cette connexion? Il me semble qu'il y avait un truc comme ça avec PG.
C'est plus des threads. C'est pas,
c'est pas un thread ou un process, c'est le même combat. Hein.
Oui,
plus
c'est ça. D'interruptions pour switcher et donc plus d'emmerde.
Mais c'est des threads, ouais. Et si tu veux, globalement, ça va prendre des ressources. Donc c'est pour ça que quand tu passes ton temps à ouvrir et fermer des connexions, c'est aussi bien de les coller derrière un proxy. Et comme ça, tu rends le workload de ta database plus stable et plus propre. Là, l'intérêt, c'est que si tu veux faire de la connexion persistante, donc du coup sur ta base, et que tu en as plein qui arrivent, il permet de faire du queuing en fait en avance de phase, et c'est ce qui fait que le proxy va prendre beaucoup de requêtes, et au lieu de juste reforwarder les requêtes, va pouvoir garder le concept de connexion, notamment si tu veux faire des listen ou ce genre de choses dans PG, ça va fonctionner dans un bouncer facilement. Et du coup, c'est plutôt assez intéressant comme modèle. C'est un modèle que j'ai trouvé intéressant pour certains use cases qui fournit dans Bouncer et pas dans Pool. Qui fournit dans Bouncer et pas dans Pool et qui permet d'avancer. Mais ça, je trouvais que c'était intéressant de réexpliquer pourquoi les connexions étaient limitées. C'est parce que, en fait, si vous voulez foutre par terre un serveur de base de données, la meilleure option c'est de ne pas mettre de limite de connexion et de laisser les gens. Faire n'importe quoi avec.
C'est des questions qu'on a au support souvent. Pourquoi on est limité à tant de connexions maximum par rapport à tel plan, telle taille de plan? Et en fait, c'est pas arbitraire. C'est vraiment par rapport à la quantité de ressources dispo sur votre machine.
C'est ça.
Ok. Alors, de même qu'il y a peu d'épisodes de podcasts où on ne parle pas de Postgres, il y a peu d'épisodes de podcasts où on ne parle pas de Rust. Parlons d'un petit projet en Rust qui s'appelle Cproxy, qui est un proxy basé sur quoi? Sur LXC? Je ne sais plus.
Sur des C-groupes.
Sur des C-groupes.
En fait, c'est un petit bout de Rust qui prend un process, soit qui démarre le process, soit qui s'attache à un process existant, et qui le met dans un C-groupe pour lequel en fait, il va définir des règles pétables. Et pouvoir se mettre entre les deux pour filtrer du contenu, filtrer, interdire ou accepter des connexions, faire ça pour du TCP et du DP, par exemple du DNS, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un petit outil plutôt pratique. On peut prendre les requêtes DNS qui sortent du process et les rediriger vers un serveur DNS qu'on contrôle.
Et faire du DNS Panther, par exemple.
Par exemple. Donc, non, c'est sympa. Je trouve ça vraiment sympa, un petit outil vraiment pratique, quoi.
Du DNS quoi?
Menteur.
Ah, du DNS Menteur. Un man in the middle DNS.
Bah, ouais.
Ouais, ou du cube, hein. C'est ce que fait cube, hein. Je vois plein d'idées.
De même qu'on ne parle pas de Rust et de Postgres, il n'y a pas d'épisode où on ne parle pas en mal de cube.
Non, mais je vois plein d'idées dégueulasses à faire avec ce truc dans du Kubernetes, moi. Je vois, mais plein d'idées très très sales, qui potentiellement seraient moins sales que certaines situations actuelles.
Tu peux élaborer ou nous pouvons passer au lien suivant. C'est comme tu veux. On a le temps si tu veux élaborer un peu sur tes idées sales.
Bah, en fait, il y a
de trucs à faire avec Cube, je veux dire.
En fait, Cube, parce qu'il essaye de générer des IP, est obligé de faire plein d'indirections au niveau du réseau, qui en fait coûte très 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 cher en temps. Et il faudrait faire des tests, mais ça potentiellement, ça permettrait d'implémenter de façon moins lente des concepts de sidecar proxy, plutôt que la façon dont c'est shippé aujourd'hui.
Alors, il y a des solutions en fait qui existent déjà, qui sont assez standard pour ça, comme Cilium. Cilium, c'est un service mesh ou je sais plus trop quoi, mais de routage en gros basé sur de l'eBPF. Et en très très gros, le truc va reconnaître, tiens, mais tes conteneurs là qui essaient de se causer, ils sont sur la même machine. Et ben, au lieu d'avoir vraiment toute la le passage par stack réseau, etc., le truc va juste reconnaître, bah là, il y a machin, il veut causer à machin, pouf pouf. Avec la réécriture de, tiens, mais en fait, il doit apparaître comme venant de tel IP au lieu de son IP qu'il connaît lui, etc. Genre, tout le NAT, tous ces trucs-là sera géré directement par Cilium en 2BPF, donc rapidement dans le kernel. Honnêtement, c'est assez marrant comme techno à voir.
Ouais, mais j'ai pas encore vu des gens réussir à s'en servir.
Cilium, ah si, quand même, il y a des gens qui s'en servent. C'est impactant, hein, on va être très clair, c'est impactant sur la manière de gérer ton cluster, mais non, je trouve que c'est une techno qui est hyper drôle, quoi.
Je suis en train de regarder sur le site comment ils en parlent, mais il n'y a pas de typologie de produit, donc ça doit être une plateforme, n'est-ce pas, puisque ils disent eBPF Based Networking Observability and Security.
Donc, non, mais c'est parce que maintenant ils font plein d'autres trucs, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire du produit massif, ils ont ajouté plein de bordel avec une offre enterprise et compagnie, mais à la base c'était juste un truc assez mimi à la base. Mais oui, c'est devenu compliqué. Bon, enfin, puis déjà à la base, le truc n'était pas simple, hein. Enfin, les trucs du CNCF Space, tu as envie de mourir.
Faut noter, Cilium, c'est quand même, t'as Thomas Graf notamment, enfin, t'as des gens qui sont committeurs kernel sur la partie eBPF, enfin, c'est des gens qui connaissent cette partie-là bien. Donc, ouais.
C'est du sérieux. Yes. Passons à beaucoup moins sérieux. Et passons à GTA Online. Je savais pas qu'il y avait un GTA Online.
À un moment, il va falloir poser ta Super NES. Hein.
C'est ma Switch. Je joue à Hades en ce moment.
C'est trop cool, Hades. Oui, GTA Online, c'est quelqu'un qui jouait à GTA Online et qui se dit, putain, c'est bizarre, c'est quand même lent. Bon, après, il dit, voilà, c'est un jeu qui a été release il y a 7 ans. Donc, tu vois, t'es en retard déjà sur un jeu de 7 ans. Donc, bon. Et qui se rendait compte que, mais qu'est-ce qui se passe, le truc met genre 6 minutes à se charger, 5-6 minutes. Et qu'on voit pourquoi, et en plus ça bouffe du CPU pendant ce temps-là. Et donc il s'est dit, je vais aller profiler le truc pour voir ce qui se passe.
Ah, il parle de loading time de plus de 20 minutes quand même. Hein. Il y a un post Reddit de Linké avec « How the fuck are 20 minutes plus load time acceptable ?» Plus de 20 minutes de loading, t'imagines ?
L'enfer, déjà, quoi. Il y a 7 ans, c'était pas acceptable. Quoi. Mais bon.
Non, mais il y a 7 ans, ça faisait pas 20 minutes. En fait, l'histoire, c'est que c'est un bidule qui, dans la plateforme GTA Online, a grossi. Et en fait, qui est bloquant dans un chargement, alors que le machin ne devrait pas être bloquant dans un chargement. Mais en fait, tu vois, c'est l'histoire de ces plateformes-là où, en fait, tu sais, les développeurs de jeux, ils ont des teams immenses quand il faut sortir le jeu. Puis après, il y a beaucoup moins de monde.
On rappelle que le coût du soft, c'est aussi la maintenance.
Donc là, il est apparu après du coup profilage et analyse du soft que c'est dans le parsing d'un gros fichier de JSON, gros étant 10 mégaoctets, genre gros mais pas si gros que ça, où manifestement ils ont fait un parseur JSON custom fait maison où ça utilise du scanf, qui est une fonction C pour lire genre un nombre. Et que l'implémentation de ce truc-là fait un strlen à chaque fois que ça essaie de lire un nombre. Strlen, c'est tu veux obtenir la longueur de la string, donc tu te fais tous les octets jusqu'à trouver un octet qui est égal à 0, parce qu'on est en C. Et donc, à chaque fois que le truc essayait de lire un nombre, ça devait se lire tous les octets du JSON jusqu'à en trouver un. Donc forcément, c'était un petit peu lent. Et il y a un autre problème de... il y a eu une HPAP qui a été implémentée... en fait, avec un tableau linéaire où, à chaque fois qu'on ajoute une entrée, on regarde toutes les entrées s'il y en a une qui a la même clé, le même hash. Donc, c'est pas une implém de HMAP qui est vraiment classique. C'est un truc fait un peu à l'arrache, mais bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur s'est dit, OK, je vais vous faire une petite DLL qui va aller patcher ça et vous faire charger le jeu plus rapidement. Je trouve ça vraiment cool de sa part et c'est une analyse vraiment intéressante.
Apparemment, le fichier fait 10 MB quand même. Hein.
10 MB de JSON, ça va, quoi.
C'est ça, c'est rien.
Mais ouais. J'ai trouvé ça marrant parce que j'ai vu genre, des tweets de développeurs de jeux qui disent Ouais, bah voilà, dès que les gros studios commencent à faire du web, des trucs comme ça, tout de suite, ça fait des pratiques de merde. Puis tu vois, un truc, attends, un parseur JSON custom en C et une espèce d'implème de HMAP codé avec le cul, ça ressemble pas à un développeur web, ça. Développeur web, t'aurais pris une
Non,
petite lib JSON classique.
non, mais ça, c'est les gens du jeu vidéo.
Ah bah oui, très clairement, c'est dans ce domaine-là.
Bon, alors, en parlant de web et de typologie de développeurs, parlons de Deno. Il y a une nouvelle release de Deno, Deno 1.8. On en profite parce qu'Hubert n'est pas là, et du coup, il...
Ouais, si tu dis encore 7 fois Deno devant la porte des chiottes, il va sortir et te gueuler dessus. Hein.
Bah c'est pour ça, ouais. On va éviter. On va laisser Hubert sa sanité. Ils mettent 5 points principaux. Et moi, il y en a un qui m'a. Donc, c'est la 1.8.0. Moi, il y en a un qui m'a fait marrer. C'est Experimental Support pour l'API WebGPU. Donc, une vraie volonté de. Ils disent de out of the box GPU accelerated machine learning dans Deno. Ok. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je trouve ça amusant qu'ils targetent aussi clairement un use case de machine learning. Je trouve ça chouette.
Alors, autant il y a vraiment plein de gens qui font du JS et autres qui ont envie de faire du machine learning, autant dire, ça y est, on arrive avec le langage qui va détrôner Python des data researchers et des développeurs de machine learning. Détrôner Python, ça n'est jamais arrivé.
Bonne
Là-dessus.
chance, les gars. Il y a un
Genre,
marché.
c'est ça. Si tu y arrives, c'est cool, mais... J'y crois pas là. Mais WebGPU dans Deno aussi, ça va être marrant. Il y aura des usages quand même. On va voir les Electron-like qui viennent avec des jeux qui causent directement
Moi, je vois
à ton
plus ça
API
arriver,
local.
ouais.
Ouais,
Plus
là,
de
ça va
use
être
case
marrant.
rigolo que de embed learning.
Et plus d'accès au GPU, de manière générale, on peut faire vraiment des choses intéressantes.
Et il y a une autre feature que je trouve cool, c'est le support des modules privés. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas aller fetcher des modules privés. Tu étais obligé de prendre des trucs publics. Donc maintenant, tu peux aller chercher des modules Deno qui sont sur un serveur avec des tokens pour t'authentifier. Ce qui n'était pas manifestement pas le cas avant. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus classiques, qui sont des améliorations de ce qui existe déjà. Meilleur. Ils ont bossé sur l'API d'internationalisation, ils ont bossé sur la notion d'import maps, je ne sais pas
Import
ce que
map, c'est
c'est.
cool ça. C'est plus de contrôle sur comment on
Sur
importe
la
du code
façon.
en JS, d'où on l'importe, etc. Enfin, c'est il y a pas mal de hype autour de ça en ce moment. C'est intéressant. Ouais.
Oui, parce que depuis hier, tu fais officiellement du web, on a vu sur Twitter.
Ça m'arrive. Bon, j'ai mis un gros coup d'oisem dedans, hein, parce que faut bien. Hein. Mais attends, du web component et tout. Enfin, l'influence de Uber sur cette entreprise est incroyable.
On déconne, mais ils sont vachement bien, les web composants du personnel.
C'est hyper intéressant de jouer avec. Je trouve ça très élégant comme manière de coder du front.
Vous vous rendez compte que petit à petit, il va vous imposer un design système, tu vois, en scred comme ça, tranquillement, et vous allez plus pouvoir vous en passer.
Je crois qu'il le fait pas discrètement. Hein.
C'est un peu la commande que j'ai faite aussi. Mais en vrai, c'est vachement bien. Surtout que moi, je vais faire une confession. Je n'étais pas très motivé par les web composants à la base. Et c'est Hubert qui m'a convaincu. Et en vrai, c'est vachement bien. Les web composants, c'est la technologie qui a été overhypée à son démarrage, alors qu'elle délivrait pas, en fait. Et du coup, tout le monde pense que c'est de la merde maintenant, alors que ça a bien évolué.
Bah là, ça délivre, mais effectivement, c'est moins la hype. Hein. Oh, bah là, mon projet, c'était faire des composants d'éditeurs de code pour le datalog dans Biscuit. Un composant complètement exécutable en 2-3 balises, t'as ton code, t'as l'affichage de tes erreurs, de parsing, de tout ce que tu veux, et vraiment tout ça, enfin, en une balise. c'est vraiment cool à utiliser, quoi.
Yes. En parlant de choses pas cool à utiliser, c'est pas gentil. De pas cool à faire, parce que c'est un vrai métier, le métier de packager. Et c'est compliqué, c'est une des raisons aussi pour laquelle Clever Cloud utilise une distribution Linux autre, que nous qualifierons de pas mainstream. Et c'est un article sur la gestion de la sécurité quand on est package manager, quand on est packager.
Ouais. C'est un article du point de vue d'un packager qui fait suite à ce même packager qui allait péter une pile au projet cryptographie en Python. Parce que ce projet-là est arrivé et a dit « en fait, maintenant, dans le process de build du soft, il va y avoir du Rust. » Parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir extraire des composants, genre avoir un parseur de ASN1, qui est le format binaire à la base de TLS, les certificats, enfin de plein de choses. Et ils ont dit, en fait, il y en a marre des problématiques de sécu autour de ça, on va faire un machin en Rust et ça va être propre et puis on va l'utiliser. Et donc, il est venu mettre une issue sur le projet pour dire, ah ouais, mais alors en fait, ça, on a un problème, nous, pour le packaging, parce que Rust ne compile pas sur des CPU Alpha, HPPA, IA64, M68K, si vous avez une Mega Drive encore dans le coin, et S390. Voilà. Et du coup, s'en est suivi une discussion qui est un classique du genre de les packagers et leurs contraintes, et les contraintes des distribs, et les développeurs du projet et leurs contraintes à eux. Les développeurs du projet, leur concept, c'était nous, on veut améliorer la sécurité pour la plupart de nos utilisateurs. Vos plateformes, là, nous, on bosse pas dessus. Alors que les packagers, eux, ont la contrainte de, si on génère un paquet, il doit être généré pour toutes les plateformes qu'on supporte.
Ce qui est génial, c'est qu'il y a un mec qui est outré, parce que juste après la liste des processeurs, t'as un mec qui dit « Ouais, ça marche sur aucune distribution Alpine, c'est un scandale, il faut enlever ça tout de suite !»
Ouais, il y avait des problèmes sur Alpine, je crois qu'ils ont résolu ça rapidement. Et du coup, c'est ce même packager... C'est ce même packager qui allait après faire un article fleuve qui décrit les problématiques du point de vue du packager, que non mais il y en a marre de ces projets qui font du static linking. Le static linking, c'est quand tu compiles une dépendance et tu l'embarques directement dans ton binaire au lieu d'utiliser une bibliothèque dynamique qui se charge au démarrage du process, mais qui est un fichier séparé qui peut lui être mis à jour de manière séparée. Parce que les packagers ont cette vision de toi tu utilises, OpenSSL ou Zlib, si on a une faille de sécu qui arrive dedans, on va mettre à jour OpenSSL ou Zlib, et du coup ton process il pourra prendre la nouvelle version de manière transparente. Sauf que de plus en plus, il y a des projets qui commencent à embarquer en static linking, parce que ils vont avoir des patchs custom et choses comme ça, voire même complètement vendorer des projets.
Ou parce que tout simplement ils en ont marre que les packagers susmentionnés qui viennent te casser les couilles avec la sécu soient sur une version débianesque de la lib qui remonte à l'époque où Jacques Chirac était encore président de la République, tu vois.
Nourrir
le troll, tu vois. Et après les mecs viennent te dire c'est inacceptable. J'ai intégré du code qui a moins de 10 ans dans mon projet, mec, je suis désolé, quoi, tu vois.
Mais même pas que ça, en fait, c'est-à-dire que. Des fois, un projet va utiliser une dépendance, mais va devoir la patcher pour une raison ou pour une autre, ou va devoir... Tu as le packager qui va dire je vais bidouiller votre projet pour que ça marche avec la version qu'on distribue, mais qui du coup n'a pas le patch et du coup ça marche pas. Ou alors, le projet doit marcher avec une version qui est plus vieille que celle qui est fournie sur la distrib, parce que différentes raisons.
Pour information, LLVM a fini de compiler.
Voilà. Et LLVM, c'est un des points justement là-dedans, parce que Rust vient avec une version de l'LVM bidouillée, parce qu'il manque encore des trucs. Et ça a été un sujet pendant très longtemps sur Rust qu'il fallait un LLVM custom pour le compiler. Donc c'est moins le cas maintenant, mais il reste encore quelques patchs qui sont mis au fur et à mesure upstream chez LLVM. Et donc ce packager est outré que Rust vienne et dise non, alors nous, on vient avec notre propre LVM, et en plus, on ne supporte pas telle et telle plateforme qui sont supportées par des gens dans leur coin pour Gentoo, etc. À savoir, l'une des plateformes, le support de ces CPU ils sont pas supportés parce que LVM les supporte pas bien à la base. Mais par exemple, le support alpha dans LVM, bah, il y a 10 ans, quelqu'un a dit « Bon, si vous voulez qu'on supporte alpha, il faut vraiment que quelqu'un le prenne en main là maintenant, sinon on supprime le code. » Personne ne l'a fait, bah, donc le support alpha a été viré de LVM. Voilà. Voilà. Mais en fait, c'est un débat qui est vieux comme le monde. Il y a par exemple RIA, qui a 5, 6, 7 ans, un truc comme ça. Ils avaient un problème avec LevelDB. La DB embarquée
seulement il y avait que RIA qui avait eu des problèmes avec LevelDB, tu vois.
Ouais. Bah, eux, ils avaient rajouté un backend LevelDB, mais qu'ils avaient bricolé pour leurs usages. Et du coup, selon la distrib, bah, il y avait ceux qui bricolaient RIA pour qu'ils utilisent le LevelDB qui était fourni par la distrib, mais du coup, ça marchait pas. Ou alors, il y en a même d'autres qui ont pris le LevelDB de RIA bidouillé. Et on mis ça comme paquet officiel, et du coup, pour tous les autres usages, c'était le bordel. Enfin, je pense que c'est un gros problème aussi de la flexibilité des outils de packaging.
Bah, y a beaucoup d'outils packaging qui sont pas fous, et notamment, sans vouloir être pénible, avec nos amis de Deb et d'RPM, c'est quand même pas délirant. Et après, je pense qu'il y a un problème de compréhension que les dépendances sans aucune contrainte, c'est pas ouf. Alors après, vendoriser sur un oui pour un non, c'est un peu dommage. Et notamment parce qu'effectivement, ça va poser des problèmes de sécu, ce sera chiant à mettre à jour. Après, vouloir faire chier les développeurs à tout prix. Et après, ça dépend des politiques aussi, des projets que tu vendorises. Hein. Des fois, tu vendorises parce que tout simplement, tu as été voir le projet en disant « j'ai besoin de changer ça dedans » ou d'ajouter des fonctionnalités et que les mecs en face te disent « oui, mais non ». Tu vois. Et du coup, bah, c'est compliqué, quoi. Toi, tu as des choses à faire, tu dois les faire avancer… Les gens d'en face sont pas d'accord. Bon, bah, très bien. Et du coup, tu fais ce que tu peux, quoi. Donc, je pense que ça, faut pas non plus oublier ça. Moi, je continue et je persiste. Je suis pas sûr que le packaging binaire général de tout soit une bonne chose. Je pense qu'on devrait bien plus souvent se reposer sur des archives de sources qu'on recompile à la volée, en fonction des use cases et en fonction de la configuration et notamment des features dont on a besoin dans chaque chose. Et je pense que c'est ça. Nous, c'est ce qu'on fait sur Clever Cloud. C'est ce à quoi sert Exerbo hein, chez nous dans le paquet. Hein. C'est tout simplement de dégager. Et ça limiterait mais énormément les attaques parce que toutes les attaques par signature de binaire, déjà, s'écrasent. Quoi. Parce que tous les binaires sont différents. Et enfin, ça rend le monde bien plus complexe à attaquer parce que tu désunifies les capacités d'attaque. Je trouve ça beaucoup plus intéressant.
Il y a des choses à faire aussi. Par exemple, dire que tous les paquets doivent supporter toutes les plateformes visées par défaut, quelque part, c'est une sottise. Tu ne peux pas demander cet effort-là de tout le monde. Et de la même manière, tous les paquets doivent forcément marcher avec la même version de tel lib. On le voit bien, par exemple, en Rust. Des fois, tu utilises une version au-dessus ou en dessous. Enfin, c'est pas parce que c'est particulièrement buggé, c'est que t'as une version de l'API qui est pas la même. Et puis c'est tout.
Faut pas oublier que quand on tape sur Deb et RPM et sur ces trucs-là, faut pas oublier qu'à cette époque, à l'époque où ça a été fait, les gens avaient tendance à vouloir faire un système cohérent lib par lib, mais à un tel point que moi, quand je devais leur filer un JBoss avec des libs, les mecs m'expliquaient que les libs que je mettais dans mon JBoss elle n'était pas compatible avec le jar qu'ils avaient dans leur version, dans leur package, tu vois. C'est-à-dire que moi, je shippais, on va dire, Bouncy Castle, parce que c'est une librairie connue pour ses problématiques de version et de sécu. Moi, je shippais Bouncy Castle dans une version et je voulais faire un paquet Debian ou un paquet Ubuntu. Et les mecs disaient « Ah non, Bouncy Castle, chez nous, c'est cette version-là. » Et ça s'était appliqué à tout ce qu'ils faisaient à cette époque-là. Donc, c'est des systèmes de package qui revient d'une époque où les gens fonctionnaient comme ça. Donc, c'est normal que ces systèmes de package soient old school. On a changé la façon de faire, mais qui est aussi lié à la façon dont on gère la sécurité aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces trucs-là sont en train de changer. Et manifestement, il y a des packagers qui sont un peu old school.
Bah, c'est pas tellement en train de changer. Regarde le support, par exemple, Rust. Le support Rust, tu vois, par exemple, dans Fedora ou un truc comme ça, ou Debian, leur approche, ça a été de générer un paquet distrib par crate. C'est-à-dire, il y a un paquet gnome Rust en Fedora, voilà, il y en a un en Debian, et au lieu de se dire, bah tiens, en fait, tel projet, il embarque toutes ses dépendances, ben on va lock cette liste de dépendances et le projet vient avec les sources de toutes ces dépendances et quitte à bouffer du CPU, non, on va bidouiller les paquets pour que ça aille prendre celui de la distrib à chaque fois. À tel point que des gens sont venus me péter une pile parce que ah bah Gnome n'utilise pas telle version de Rust qui est celle qui est la version utilisée par Debian. Et je veux dire, bah,
oui, mais tu comprends, on vend un contrat de support pour cette version supportée. Il faut que ce soit cette version-là parce qu'elle est dans le truc qu'on supporte et on le vend.
Voilà, mais moi je ne suis pas payé pour.
Non, puis en fait, si tu veux, c'est surtout que c'est complètement con dans le cloud Rust parce que de toute façon, Rust téléchargera les sources des dépendances pour tout recompiler et ne compiler que ce dont il a besoin et pas la totalité de la libre. Parce que la façon dont fonctionne le build de Rust, c'est ça. Parce qu'en fait, il récupère toutes les sources et après, il fait du tree-shaking en fait, dans les sources et il ne va récupérer que les bouts dont il a besoin des libres et il ne compile pas toute la libre en vrac, sauf si tu lui dis de le faire et encore, c'est chiant à lui dire. Donc en fait, c'est ça. Après, pour moi, il y a des écosystèmes différents, tu vois. Par exemple, tu prends un JBoss aujourd'hui, apt-get install JBoss, tu sais très bien que ça va très mal se mettre. Parce que tu sais que le truc va pas être à jour, pas bien, enfin, ça va pas fonctionner. L'écosystème Java, tout le monde sait qu'il faut utiliser Maven ou Gradle pour build son truc, ça va récupérer les bons binaires, ça va faire son truc. Et en fait, je pense que là, l'idée, c'est que comme Rust, notamment, fait énormément de contrib à des outils système, bah, en fait, il y a un souci sur le sujet qui est la présence des outils système massivement dans ce truc-là, tu vois, qui pose du coup un problème.
Il y avait le problème avec, enfin, tout d'autres langages, genre Ruby, Python, JS, ont eu ce problème-là, mais c'est potentiellement là depuis qu'il y a Rust que ça revient énormément sur le devant de la scène, parce qu'effectivement, les gens ont envie de ship des outils Rust dans les distribs, parce que t'as des outils ligne de commande, des outils système, des serveurs, des choses comme ça.
Bah, et d'ailleurs,
par exemple,
le futur serveur de son de Linux qui va détrôner Pulse Audio, c'est Pipewire, c'est Full Rust. Et je pense que de plus en plus, on va avoir énormément de Rust qui prend des places très importantes au sein du système Unix. Et effectivement, je pense que du coup, ça gueule un peu. Mais je pense qu'en fait, le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye dans ce cadre-là de faire correspondre les besoins des développeurs Rust et le besoin des gens qui vont utiliser le paquet. Et pour moi, il y a des paquets, il faut les compiler, il faut les fournir en tant que paquet. Puis le fait que le système ait ses propres gestions de version, enfin, Rust, c'est fait pour être utilisé avec Rustop. N'utilisez pas le packaging de compilation du système. Ça n'a pas de sens. C'est fait pour être utilisé avec Rustop.
Et après, ça pourrait avoir du sens si les distribs shippaient la dernière version stable par défaut et si toutes les 6 semaines, il y en a une nouvelle. C'est ce qui est fait dans Exerbo, hein, par notre collègue Marc-Antoine, qui, toutes les 6 semaines, publie un paquet Rust stable avec la dernière version et ça ne pose strictement aucun problème.
C'est pas vendable.
Oui, mais ça marche.
Oui, mais la DSI, elle n'est pas d'accord.
Aujourd'hui, personne n'a de contrat de support sur les paquets de Marc-Antoine Perrenou sur Rust.
Le RSSI n'est pas d'accord.
Voilà, mais bon, bah, donc du coup, si on ne peut pas faire du packaging correct, on se retrouve à tout mettre dans une image Docker.
Voilà,
je pense que
c'est
ça
mal.
Va être ça, la solution.
Je propose de passer au lien suivant parce que Geoffroy a un
Rust. C'est con, on allait pouvoir parler de Flatpak après, on était bien.
Je pense qu'on attendra Marco pour parler de ça la prochaine fois. On passe sur un lien rigolo qui parle de ping et de serveur NTP. Moi, c'est surtout la partie test de serveur NTP qui m'a fait marrer. Est-ce que tu veux nous en parler, Geoffroy ?
Ouais, donc c'est quelqu'un qui s'est dit et qui voulait mesurer la latence pour causer un serveur et qui s'est dit, bah, on va faire des pings. Mais en fait, qui remarque que le lien réseau qu'on a le lien pour l'aller quand on envoie un paquet et le lien pour le retour ne sont pas forcément le même parce que les problématiques de routage sur les réseaux modernes font que bah, tu n'as aucune garantie que ça va passer par le même endroit ou même si ça passe par le même endroit que ça va avoir la même latence parce qu'il se peut que tu aies une asymétrie entre la quantité de données qui part dans un sens ou dans l'autre et que du coup ça buffer plus dans un sens que dans l'autre et donc tu peux avoir plus de latence d'un côté. Et donc, comment est-ce qu'on peut mesurer ça ? Eh ben, il vient l'idée d'utiliser une feature de timestamp qui vient avec les paquets ICMP, pour les pings et autres, le paquet contient la date à laquelle, enfin, le timestamp auquel le paquet a été envoyé, le timestamp auquel je l'ai reçu, Et le timestamp auquel j'ai envoyé la réponse. Sauf que, comment est-ce que tu sais que les serveurs sont à la même heure? Il va falloir que tu vérifies qu'ils sont bien connectés à un NTP, qu'ils ont la même heure qui vient d'un serveur NTP. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu t'assures de la latence que tu as entre ta machine et le serveur NTP. Enfin, problème à tiroir hyper intéressant. Et du coup, vient l'idée de comment est-ce que tu mesures le délai que tu as avec ton serveur NTP. Et après, une fois que tu as ça, tu peux essayer de commencer à mesurer que tu sais à peu près l'heure exacte que tu as sur ton serveur, commencer à mesurer les délais dans un sens et dans l'autre.
Ouais, c'est cool, tu peux mesurer les drifts et il y a quand même pas mal de solutions de concurrence basées sur la synchro NTP. Et du coup, c'est assez amusant, je trouve, de pouvoir tester ces trucs-là. Genre CockroachDB ou tous les spanner-like en fait, qui sont basés là-dessus.
Si tu as une bonne horloge, ça te résout énormément de problèmes, en fait. Ça a été l'approche de Google de dire, on va mettre des horloges atomiques dans tous les DC, salut.
Nous avons fixé le cap théorème grâce à nos horloges atomiques.
Ah oui, c'est la gestion du temps, c'est un sujet où il y a toujours, toujours d'autres problèmes à voir. Honnêtement, c'est hyper intéressant, ouais.
Dernier lien, parce qu'on parle de gestion du temps, c'est un lien Rust. Nous allons parler de NuShell ou New Shell.
Ah ouais, ça c'est un petit shell que j'ai découvert et après toute la boîte m'a dit hold de feu et du coup on en a a priori parlé dans le Massy 18, mais dans un autre contexte. Petit shell en Rust que j'ai découvert, donc NuShell. L'idée de gens qui essayent de reconstruire un shell au-delà du pattern SH, Bash et compagnie. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc, vous pouvez pas encore, je pense, s'en servir comme shell généraliste tous les jours, mais c'est un shell qui contient l'idée de data table en fait. Et du coup, quand vous faites par exemple un PS, il va le mettre dans une table. Donc déjà, après, c'est très propre. Mais surtout, derrière, vous pouvez passer la commande PS en faisant un select, donc dire les colonnes qui vous intéressent, pipe where, et donc dire par exemple tous les process qui consomment plus de 2 de load. Et en fait, c'est assez cool, parce que derrière, vous pouvez même en faire du JSON, etc. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très pratique pour lister facilement des bouts de table, les LS aussi sont dans des... Enfin, tout ce qui est un peu liste et bricolé avec des listes sont en fait générés sous forme de data table et sont requêtables pas en SQL, mais dans des modèles de sélection qui s'en rapprochent. Et je pense que ça peut résoudre des fois des problèmes pénibles que vous pouvez avoir et j'ai trouvé ça marrant.
Curieux de voir un exemple avec GQ ou des choses comme ça, mais on en avait parlé effectivement parce qu'il y a un shell Couchbase basé là-dessus, donc Couchbase qui est une base de données NoSQL où vous stockez du JSON dedans, et du coup maintenant ils ont un shell basé sur NuShell.
Et ouais, c'était l'autre truc que je pensais avec ça, c'est que je pense qu'il y a moyen de créer des shells pour vos outils basés sur NuShell qui sont très très cool. C'est un assez gros projet, hein, c'est un projet actif. Il y a près de 200 contributeurs. On sait que quand GitHub te dit qu'il y a 200 contributeurs, potentiellement, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns. Mais j'ai trouvé ça... j'ai trouvé que c'était cool, que ça avait du sens d'exister, et c'était une bonne chose. Voilà.
Il y a un onglet Packaging Status où tu vois que Exerbo est en 0.25.1, soit deux versions majeures de retard. C'est triste.
Ouais.
Alors pour ceux qui vont faire la remarque... Pour ceux qui vont faire la remarque, oui, PowerShell faisait ça depuis très, 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 très longtemps. Et en fait, je suis super content qu'on ait maintenant sous Linux un outil vraiment sympa pour faire l'équivalent. PowerShell, c'était le shell objet où tu as une commande qui te renvoie un objet et tu peux filtrer sur tel ou tel attribut, etc. Et en fait, on peut faire des trucs vraiment hyper intéressants avec et c'est cool de voir NuShell. Ouais.
Et voilà, c'est la fin de notre podcast. Je vais lancer le dé puisque pour une fois, il y a trois Clever Claudiens. Je suis de 1 à 7.
Et t'inquiète, je te fournis la mienne, si jamais je suis pris.
De 8 à 14, et Quentin, de 14 à 20, t'as une chance de moins d'être pris. Parce que tu l'as pas encore mis. Nous, on l'a pioché dans le backlog. J'ai fait 8. Je sais plus ce que j'ai dit.
C'était Géal, ouais.
C'est Geoffroy. Ouais.
Ah, en plus, ça faisait longtemps que j'essayais de la placer, celle-là.
Mais ouais, bring back the funk.
C'est ça. Donc c'est Prototype Raptor que je suis depuis très longtemps, là, qui fait en fait bon, l'électro qui a un peu de peps, qui est plutôt joyeuse. Et là, celle-là, on va vraiment un côté, bah voilà, côté fun, côté énergique que j'adore. Ça met bien de bonne humeur pour commencer sa journée.
Et voilà, vous savez quoi faire après avoir écouté ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci infiniment, Geoffroy et Quentin, d'avoir participé. Merci à toutes et à tous. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.